Aujourd'hui, dans l'écume des pages, nous recevons, dans le cadre des Assises internationales du roman, Aurélien Bélanger, pour son livre « L'aménagement du territoire ». Aurélien Bélanger a tout d'abord écrit un ouvrage sur Houellebecq. Houellebecq, écrivain romantique, avant de publier deux romans chez Gallimard. Le premier, « La théorie de l'information », paru en 2012, a rencontré un grand succès critique. Une critique qui a salué le style bien particulier du roman, laissant entendre une nouvelle voix dans le paysage littéraire français. L'aménagement du territoire, son second roman, publié en 2014, confirme le succès de l'écrivain. Ce roman a notamment été récompensé par le prix de Flore.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
C'est drôle parce que le précédent, j'en ai beaucoup parlé, j'ai toujours réussi la théorie de l'information à le résumer facilement. Celui-ci, j'ai jamais trouvé d'angle. J'avais hésité entre deux titres, celui-ci qui était plus géographique et un autre qui était plus temporel, plus historique. Je pense que c'est dans cette hésitation entre les deux titres, ça se ressent dans le bouquin parce qu'il y a un aspect. C'est censé être une sorte de méditation sur l'histoire. Puis en même temps, il y a un aspect très fortement géographique, avec un ancrage géographique marqué. Du coup, je pense que la difficulté tient aux deux trucs. Et il y a tout un jeu sur la grande vitesse, sur l'accélération de l'histoire, qui prolongeait les questions du premier roman. Et ces questions sur la vitesse, elles sont sous-traitées, sur l'accélération de l'histoire, elles sont sous-traitées par des thèmes géographiques. Du coup, elles sont un petit peu encryptées. Ce qui marche bien, parce que. Que ce soit les différentes couches de niveau des terrains, on voit qu'il y a une encryption géographique des questions temporelles. Mais c'est, je pense, la question de la difficulté à identifier le sujet vient de ça, c'est un truc un peu bâtard. L'idée de départ était. La double idée de départ, c'était. Je trouvais qu'il racontait une intrigue, qui racontait le percement d'une ligne de TGV, était un bon point de départ. Parce que j'avais eu un exemple familial sous les yeux d'une ligne qui passait dans la ferme où habite mon grand-père. Et l'autre idée, c'est que je voulais faire une intrigue qui avait un argument plus ou moins néolithique, en fait. Je voulais créer une sorte de super théorie complotiste à même d'expliquer la totalité de l'histoire. Donc les deux sujets se sont croisés. Ouais.
D'accord.
Donc c'est pas un très bon résumé du livre, mais,
oui, c'est...
mais le livre raconte dans le village imaginaire d'Argel de la marche occidentale de la France qui est à la Mayenne, à l'entrée de la Bretagne, l'arrivée d'une ligne à grande vitesse. Et un autre aspect était une sorte de réflexion sur le progrès, en fait, et le train va polariser les rapports, quasiment toute l'échelle de la gamme des réactions possibles au progrès, des plus réactionnaires aux plus progressistes.
Justement, il y a différentes réflexions sur le progrès dans le livre, différentes visions du temps. Mais le progrès est surtout présenté, en tout cas sans révéler la fin de l'histoire, comme un phénomène inéluctable qui va s'accélérer. Et est-ce que c'est un phénomène qui serait dangereux pour l'histoire ?
L'idée, c'est pas de dire que c'est pas naturel, ce serait pas le terme, mais qu'il s'est quand même passé quelque chose qui dépasse l'être biologique humain, qui a assez peu changé ces 20 000 dernières années, mais il s'est passé un moment de verticalisation de son histoire, un développement... technique assez foudroyant, c'est ça qui est amusant, c'est que même si on n'est pas du tout progressiste, il y a les domaines où le progressisme résiste, qui sont des domaines qui sont le domaine des techniques, par exemple. On peut moduler, c'est plus compliqué, mais même en étant vraiment profondément pas progressiste, on est quand même obligé de dire que nos technologies ne sont plus celles des anciens Grecs, par exemple. Donc on est quand même obligé d'admettre un minimum de progrès. L'idée, oui, c'est que c'est un processus incroyablement rapide et profondément anormal au regard de l'histoire géologique, au regard de l'histoire biologique, au regard même de l'histoire des civilisations humaines qui se sont déprimitivisées, mais qui auraient pu rester des civilisations primitives comme elles étaient avant la dernière glaciation, à l'époque de Lascaux, comme c'était à l'époque des aborigènes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et effectivement, ça c'est inéluctable, enfin, dans la mesure où... Mais c'est plus compliqué. Disons que pendant longtemps, on a pensé que le... que la société était profondément dysfonctionnelle et séduisante, et qu'à partir du moment où notre société apparaissait en quelques coins du monde, on allait détruire les autochtones, et on n'allait pas les détruire parce qu'on allait leur voler leurs terres, etc. Notre seule présence allait les détruire. Quand un aborigène nous voit, il est conquis par notre modernité. Et pendant longtemps, il y avait ce mythe. Il suffit de faute... si on voit un Indien d'Amazonie, s'il nous voit, c'est foutu pour lui. Il va vouloir devenir nous, même si on est dysfonctionnel, même si ça ne marche pas. Donc, ça, c'est un caractère Deus ex machina du progrès. Quoi. C'est quelque chose qui... on ne peut pas reculer en arrière. Ça s'incarne différemment. Ça s'incarne aussi dans l'idée qui était très prégnante dans les années 80, qu'on a 10 ans de retard sur les États-Unis et que c'est un retard qu'il faudra combler. Dans tous les domaines, l'idée que le progrès est inéluctable. Après, je pense qu'en fait, c'est plus compliqué. Je pense que c'est pas sûr que notre pote de civilisation soit celui qui triomphe à la fin. J'essaie d'engager une réflexion un peu bizarre en ce moment, qui est largement inachevée sur des questions qui m'étaient complètement étrangères au moment de l'écriture de ce roman, qui se rattacherait de très loin à un champ, on va dire un peu, je sais pas, pour utiliser des gros mots, un champ post-colonial, mais qui stipulerait que... il y a une contamination de cette idée de progrès inéluctable par la rencontre d'autres cultures. Et ce qui m'intéresse, du coup, c'est plutôt des fins phénomènes de réglage, comme celui qui conduisent les Amérindiens à connaître l'usage de la roue, mais à ne pas l'utiliser, comme celui qui conduisent des tribus de Papouasie à fréquenter des tribus qui utilisent des arcs et elles n'ont pas à en utiliser. Pour le coup, ça, c'est une vraie question politique assez urgente. Et l'idée que pour la première fois, on se rend compte que le progrès ne serait peut-être pas inéluctable, mais qu'il pourrait faire l'objet de choix. La caricature, ce serait évidemment l'AZAD, le refus d'un grand projet d'aménagement jacobin du territoire, etc. Mais c'est pas finalement, même si c'est amusant à traiter, etc., les ZAD, c'est peut-être pas si anodin que ça, que parfois, finalement, cette histoire, elle soit pas si... si inexorable. Du coup, le roman interroge un tout petit peu ça. C'est probablement pas assez, mais avec cette idée que finalement, enfin, c'est la grande idée de la fin que je dévoile, mais de façon un peu trop cryptique pour que ça soit clair, qu'une technologie, on peut choisir de l'adopter, choisir de ne pas l'adopter, que l'histoire est elle-même une sorte d'hyper-technologie, d'infra-technologie, de méta-technologie, et que l'histoire elle-même, on pourrait faire le choix de refuser cette historicité. Ce qui est la grande question... que je traite sous un angle négatif, mais qui est pas une question idiote.
Qui est la grande question du complot.
Et puis c'est le rapport de Pierre à l'histoire, qui trouve que nos sociétés sont profondément décadentes parce qu'elles ont refusé l'histoire. Si on prend au sérieux son reproche, qui fait que nos sociétés sont post-modernes, mais prenons son approche au sérieux, est-ce qu'il n'aurait pas raison? Pas tant de le déplorer, mais que de constater qu'on pourrait sortir du processus historique. Pourquoi pas, avec derrière cette grande menace, grand rideau noir de la singularité technique et de notre absorption terminale dans une sorte de tout machinique. Donc voilà, c'est un peu des thèmes qui étaient amusants. Et puis évidemment, la question du révisionnisme, l'idée que l'histoire est une matière, si elle est une technique, elle est aussi une matière première. Il y a une sorte de pétrole historique. Ce qui fait vivre les civilisations, c'est aussi la manipulation de l'histoire, et que la manipulation de l'histoire est une sorte de réacteur nucléaire qui les fait exister, qui les fait traverser le temps. Oui.
J'avais aussi une autre question sur, par rapport à votre style. Enfin, on a beaucoup parlé de votre style, et d'ailleurs, quand j'ai voulu en parler à d'autres, je suis allé voir les critiques les plus élogieuses. Même les critiques les plus élogieuses parlent de style froid, encyclopédique, de Wikipédia littéraire. Pourquoi vous adoptez un style aussi technique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient naturellement, ou est-ce que vous avez besoin, est-ce que ça sert à raconter l'histoire?
C'est presque une facilité, hein, parce que de la même façon que la poésie romantique recourait un peu trop largement aux cygnes, aux lacs et aux cieux, le vocabulaire technique, comme tout autonome, doué d'un magnétisme fort, tel qu'il a d'ailleurs été utilisé par les surréalistes, hein, qu'il y avait un rapport comme ça au terme technique. C'est quasiment comme si je puisais dans un réservoir de poésie directe, donc c'est un peu de la triche. Mais il y a un côté, ce truc rayonne, ces mots sont jolis, je ne sais pas, électro-condensateur, enfin il y a des choses juste au niveau des sonorités, c'est intéressant. Ensuite, ça signale directement une hypermodernité, et puis c'est irrésistible dans la mesure où c'est une sorte d'interdit romanesque, on va vers la psychologie, on va pas vers ça. Donc tout ça fait que j'ai un intérêt pour ce genre technique qui est un peu de la triche pour le coup, c'est vraiment une façon de gonfler, de testostéroner les intrigues de mon roman. Ensuite,
mais en même temps, il y a une puissance dans les thermotechniques, il y a une sorte de fascination pour la science, ce qu'elle affirme.
Et puis, déjà, la fascination, de plus en plus, je pense que quel que soit le narrateur qu'on choisit, omniscient, pas omniscient, etc., le narrateur romanesque est ironique, ouais. Il va complètement au premier degré de ce qu'il raconte, mais il se laisse très facilement contaminer par les champs qu'il aborde, il se laisse très facilement séduire, etc. Ça fait partie de cette ironie, donc être séduit par ce champ, ce sublime machinique, ce sublime de la puissance me convient assez. Oui.
Il y a quelque chose d'ailleurs à propos de l'ironie dont on parle assez peu pour vos romans, on parle surtout de la technique, c'est que vos romans sont très drôles, souvent à la limite de l'absurde, avec des personnages qui sont pourtant très caricaturaux. On a le zadiste, le nationaliste, le chef d'entreprise ultra-libéral, etc. Et pourtant, ils sont caricaturaux, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ne le sont pas tant que ça. On peut être d'accord avec leurs idées, ils ne sont pas si peu crédibles.
Oui, oui. D'une certaine façon, personnage romanesque, c'est un bloc de discours à peu près cohérent, quoi. Plus qu'une vraie personne. Et ce bloc de discours cohérent, c'est assez proche d'être assis à côté de quelqu'un dans le train qui parle au téléphone et d'essayer de comprendre un peu son ontologie, dans quel univers il vit, etc. Et on est à la fois un peu moqueur et puis en même temps on est intéressé. C'est le personnage littéraire permet vraiment de développer ça, un intérêt pour quelque chose qui a ses ridicules, qui a sa grandeur et qui a son autonomie et qui fonctionne bien. Je suis assez attiré par les trucs qui fonctionnent bien, effectivement, c'est assez cohérent qu'un chef d'entreprise ultra-libéral ait des tendances libertariennes et peut détruire l'État jacobin. Enfin, ça marche assez bien, en fait. C'est même pas en forçant la caricature, c'est juste en tournant le truc du personnage, il se retrouve à adopter telle ou telle idéologie. Le grand moment de révélation dans La recherche du temps perdu, où le narrateur s'aperçoit à Doncières qu'il y a moins d'idées que d'hommes et que du coup on est forcément l'homme d'une idée, ça me semble assez vrai. Ouais. Et je trouve que le romanesque a vraiment pour mission de ne pas chercher la vérité, mais de chercher le lieu commun. Je regardais ce matin ces émissions bizarres du matin sur TF1 où des sortes de fausses confessions intimes où les gens jouent assez mal des scènes de la vie, genre je me marie mais mon ex se marie même encore, etc. Et qui après ils font des confessions face caméra. On voit très bien, c'est très mauvais, c'est très mal joué, on voit très bien les scénaristes qui tirent à la ligne, mais en tirant à la ligne, ils disent finalement quelque chose d'assez vrai sur notre société, parce qu'ils manipulent du cliché, et que dans ce cliché manipulé, il y a quelque chose d'assez bien senti. Donc on peut pas être que au niveau du cliché, mais faut pas être plus intelligent non plus que ça. Et on est vraiment fabriqué de clichés. Et c'est intéressant. J'ai du mal à expliquer clairement là-dessus, mais il y a une sorte de ligne intermédiaire idéale de l'écriture romanesque d'être à peu près. Moi, j'ai raconté ça plusieurs fois, mais le précédent roman a beaucoup fonctionné à base de recherches sur Internet, etc. Toute une partie de la trame de celui-ci, vu que je viens du département où se situe l'intrigue, toute une partie de l'intrigue m'a été fournie par des on-dit familiaux et par des choses que j'ai entendues quand j'étais trop petit pour bien comprendre, mais des sortes de visions fantasmagoriques du monde que j'ai essayé de retranscrire et qui est assez proche aussi de l'écriture romanesque. Quoi. Le moment où on ne comprend pas complètement, mais on comprend que ça fait sens, quoi, que ça crée un grand tout.
Et justement, derrière l'écriture, il y a une énorme documentation. Ou c'est d'abord des thèmes justement qui vous venaient en premier, des sujets qui vous intéressent, dont vous avez envie de discuter. Comme quand vous parlez, est-ce que vous êtes un spécialiste des terres et des pierres qui les composent, ou de certaines théories, je pense notamment à la théorie de Fomenko.
Disons que je m'y connais parce que j'ai un peu étudié la question et que je me documente quand j'écris, mais dans aucun des domaines traités, je pense aucune exception, je m'y connais plus que ce qu'il y a dans le roman. Ouais. Le roman est à peu près le reflet complet de ce que je pense, enfin pas de ce que je pense, mais de ce que j'ai acquis. Donc des fois, quand je parle de la constante fine dans les théories physiques, je suis au max de ma compréhension et même j'ai probablement même oublié ce que je dis, mais je m'y connais pas plus que le roman. C'est intéressant d'ailleurs, c'est la part un peu gymnastique de l'écriture, c'est le moment où En écrivant, on est concentré, on est un peu plus intelligent que d'habitude, et c'est le maximum, du côté du gonflage de cerveau, quoi. C'est le maximum de compréhension du monde que, de mon point de vue, je suis capable d'exprimer. Un truc très léguinisien, c'est vraiment la monade comme reflet total du monde. Potentiellement, je sais que je suis capable de tout comprendre, des mathématiques les plus dures, les physiques les plus machin, bon bref, je suis dans un temps limité avec un intellect et la limité. Je vais pas jusque-là, mais j'essaie de me gonfler au maximum. Et le roman ressemble à cet exercice d'agilité cérébrale. C'est un peu con comme les mots croisés, des fois, la littérature. Mais bon, c'est rigolo.
Il y a deux variables dans le sujet. Il y a celle de l'espace, qui est toute celle de l'aménagement du territoire. Mais vous l'avez dit, finalement, c'est un titre un peu trompeur, parce que c'est surtout un récit peut-être sur le temps. Et c'est aussi, sachant que le dernier roman était aussi finalement un récit sur le temps, on retrouve en tout cas deux fins exactement pareilles, on retrouve le même mot du temps à la fin des récits. C'est quelque chose de volontaire ?
Tout n'est pas volontaire, mais là c'est vraiment l'archéologie du second roman. Le second roman raconte la singularité technologique finale, ou l'une de ses versions possibles. Et le premier roman, vous le racontez, le tremplin néolithique, le moment où tout ce corpus... technique s'incarne pour la première fois. Donc il y avait une dynamique de pendant, on racontait le début et la fin de l'histoire humaine, avec où effectivement dans les deux cas un jeu sur l'apocalypse, un jeu sur la fin des temps. Mais globalement
vous n'êtes pas omnibilé par la fin des temps, par la fin de l'histoire?
Je suis beaucoup intéressé, j'en ai pas fini avec ce thème, sur la question de l'apparition de l'homme. C'est que ça reste c'est pas religieux d'ailleurs, c'est scientifique, mais ça reste le dernier grand récit, le récit absolument universel, absolument incroyable, et ça reste difficile à dire, ça fait pompeux de le dire comme ça, mais c'est peut-être jamais rien passé d'aussi intéressant dans l'histoire de l'univers, et d'en être quand même les contemporains. C'est tellement exceptionnel que ça donne envie de le raconter, en fait. C'est incroyable d'être témoin de ça et de raconter ça, donc revenir sur les débuts du temps, et puis surtout sur ce moment d'accélération. Il se passe quand même quelque chose, et cette accélération... On peut la réduire aux 10 ans de technologie de réseau, d'internet, de téléphone mobile, de ce qu'on veut. On peut aussi dire que ça commence avec les premiers outils, etc. Mais il y a l'un comme l'autre, que ce soit 40 000 ans, 40 millions d'années ou 4 ans, c'est peu. Regarde l'histoire de l'univers. Et ça donne envie de le raconter.
Ouais. Mais c'est très ambitieux d'ailleurs, parce que vous commencez...
Mais c'est le charme du roman, en fait, c'est qu'on peut, plus on est ambitieux, moins on peut rater quelque part dans le roman, parce que ça donne un côté jamais vu, l'idée c'est d'être à peu près cohérent avec sa vision, quoi. Faut avoir un minimum de vision, faut sentir les trucs, faut pas créer un roman ambitieux si on n'a rien, mais on peut se lancer dans le vide sur un thème ambitieux, c'est pas plus difficile que de réussir quelque chose de simple. Le roman permet de tricher comme ça avec la complexité de ce qu'on raconte.
Et avec cette ambition, il y a aussi, ça permet de jouer souvent sur deux échelles, justement, le petit village de Mayenne et à chaque fois le grand complot historique.
J'aimais bien l'idée, ouais, que ce soit... J'avais calculé, je crois que c'est exact, que c'est un millionième de la surface terrestre. J'aimais bien l'idée d'un échantillonnage, et que c'est un bon échantillon. En plus, c'est un échantillon qui marche d'autant plus que... Il fait partie, bon, en même temps c'est vrai de quasiment tous les départements français, mais il fait partie de ces endroits qu'on traverse et qu'on trouve typiquement français. Enfin, il y a une sorte de typicité irréductible. Enfin, c'est le département rural par excellence, quoi. Donc c'était amusant de
là en faire le centre du
monde. Ouais, ça marchait. Enfin, quelque part ça marchait. C'est tellement plat que pourquoi pas le relever, quoi, et inversement. Ouais.
Sur la question du double sens aussi, il y a l'épigraphe. Dans le premier roman, La théorie de l'information, l'épigraphe c'était un gros paragraphe de Leibniz.
Ouais.
Là, c'est deux mots qu'on comprend presque à la fin du récit qui nourrissent justement un double sens.
C'était un titre possible, mais c'était vraiment trop cryptique, donc c'était une bonne façon de le jouer. C'est comme une ouverture aux échecs, quoi, un début de roman, quoi. On voit 80 coups à l'avance où ça va nous mener, quoi, si l'ouverture est bonne. Disons que la fin de l'intrigue, je l'avais depuis le début, c'était certain. Je voulais que ça finisse par un train fantôme et qu'il ne se soit rien passé. Donc... du train fantôme au train robot qui inspecte les voies, ça marchait assez. Et puis toute l'histoire, vu qu'il y a un argument archéologique assez fort dans le bouquin, et vu que l'archéologie ne prétend plus être une science spectaculaire. Je voulais quand même faire repos une dernière fois de l'archéologie spectaculaire avec une découverte archéologique majeure, l'une des grandes découvertes archéologiques du siècle, et celle de Lascaux. Je voulais qu'il y ait une grotte, etc. Donc ça marchait assez bien. C'est à la fois une blague et puis en même temps c'est sérieux, parce que Revient Robot, c'est quand même l'humanité qui regarde... on est dans les lois d'Asimov, enfin on est dans l'après, quoi. On est dans le tout machinique, donc il y a un côté ce recyclage des thèmes du premier roman, mais bon, ça marchait assez bien vu que c'était, je les ai vraiment conçus. Enfin, je savais pas que j'allais écrire celui-ci en écrivant le premier, par contre celui-ci, je savais que je voulais faire un phénomène, enfin des effets de symétrie. Ouais.
Vous n'avez pas envie d'écrire de la science-fiction après, en utilisant souvent des récits aussi techniques? Vous parliez d'Asimov, c'est pour ça, ça...
Non, j'exclus rien. Ouais. C'est difficile, la science-fiction. Ouais. C'est difficile, parce que c'est rarement bien, et souvent, quand c'est bien, c'est parce que c'est pas de la vraie science-fiction, c'est parce que c'est du space opéra, quoi. Mais pourquoi pas.
Je vous demandais quelle est votre parenté littéraire. J'ai vu différents auteurs, j'ai vu notamment Houellebecq, sur lequel vous avez écrit un premier livre. J'ai vu aussi Balzac, qui se rapproche de Houellebecq, puisque Houellebecq s'inspire notamment de Balzac et de Guy.
Oui, et puis c'est le romancier qui légitime tout, en fait, tous les défauts. Enfin, c'est très rassurant d'aimer Balzac. Et puis c'est très bien, Balzac. Non. J'ai été lecteur de Dantec longtemps. Ouais. J'ai pas lu les 3-4 derniers, mais c'est quelque chose d'important, Dantec. Dans l'histoire littéraire française, c'est quelque chose d'important. Ouais.
Et puis il y a un autre auteur, Enid Blyton.
Alors, j'ai pas relu, ça y est, je les ai achetés, parce que je dis à chaque fois que je les ai pas relus, mais je les ai achetés, et ça y est, je vais relire Le Globe des Cinq et vérifier si mes intuitions sont bonnes.
C'est parce que tout le roman fonctionne finalement, Le Globe des Cinq est cité, et c'est une aventure qui est plus grande. Cette fois-ci, c'est des adultes qui la jouent, mais une aventure qui est plus grande.
Oui, le côté on découvre, le maximum du Club des Cinq, c'est des contrebandiers, mais là, le côté on découvre une porte, et puis cette porte mène à un tunnel, et puis c'est une dynamique, je crois que c'est quasiment neuroscientifique, quoi. Les intrigues du Club des Cinq sont excellentes. Oui, c'est catastrophique, j'ai jamais aimé, mais le Club des Cinq, il y a une solidité, et moi, j'ai retrouvé vraiment un plaisir naïf de l'éther, quoi. Une sorte de feuilletonesque simple, comme un instinct, pas du tout l'idée de faire du feuilletonesque pour vendre plein de livres ou en référence à une quelconque post-modernité, juste le feuilletonnesque parce que les portes dérobées, là il y en a une, j'aime bien les doubles fonds, toutes ces choses m'excitent parce que je pense que fondamentalement c'est des objets excitants, quoi. Sans, peut-être même sans explication, ouais. On aime les souterrains. Où j'aime les souterrains, mais je pense que globalement l'homme est attiré par les souterrains. Ça serait pas fait chier à peindre Lascaux ou des grottes encore plus inaccessibles si on n'aimait pas les souterrains. Sans même recourir à des explications psychanalytiques, hein, je pense que c'est encore plus spontané que ça, quoi.
Sur l'aménagement du territoire, vous avez choisi ce titre à la différence du temps, de celui sur le temps notamment, mais qu'est-ce qui vous a inspiré directement sur l'aménagement du territoire? C'est cette idée très technocratique qu'on...
Oui, c'est un thème. Les gens en France savent ce que c'est, sans savoir trop ce que c'est. C'est une sorte de science qu'on a rencontrée dans nos études. On se souvient, si on a fait des études un peu sérieuses, on se souvient de l'existence de la Datar, l'existence des métropoles d'alternance, peut-être des plans quinquennaux. On se rappelle de la banane bleue, de l'autoroute des littoraux. Enfin, il y a quelque chose, c'est quelque chose qui est important dans l'imaginaire national, l'aménagement du territoire. Et puis surtout en France, où c'est très jacobin, où c'est une redistribution par le centre, le centre qui accepte finalement de donner un peu de sa puissance et qui faisant pense qu'il redonne, qu'il cesse d'être au centre. Mais vu que ça vient de lui, c'est encore une façon d'affirmer son pouvoir. Enfin, c'est un jeu amusant et c'est un jeu très français qui marche d'autant bien. Parce que les fondamentaux, les fondamentaux d'équilibre géométrique du territoire français sont intéressants, c'est un bon territoire. Enfin, ils le sont tous, mais là on se trouve avec un pays qui a une forme marrante, de possibles régularités, des accès sur trois mers, enfin il y a des trucs plus... Enfin, bon, l'objet marche bien, donc c'est quelque chose d'à la fois un peu faux et un peu vrai. Et puis c'est une science profondément hybride qui mélange... je le dis à un moment, je peux pas le dire mieux, mais je le dis dans le livre, c'est la variante la plus évoluée du Kriegsspiel, quoi. C'est un jeu de stratégie grandeur réelle où au lieu de distribuer des jetons, on distribue des usines, des autoroutes, etc. C'est le perfectionnement par la 5e République de la France de Colbert. Il y a quelque chose, c'est un bel objet romanesque, je trouve. Sachant que le romanesque, c'est aussi
Parce que l'aménagement...
Sur l'idée du roman national, en fait, il y a cette chose...
Parce que l'aménagement du territoire appartient pas seulement justement aux technocrates dans le roman, mais il appartient à tout le monde. C'est... Chacun se définit par sa volonté de réaménager le territoire. Et...
Oui, bah, surtout en plus, oui, avec ces émergences de... Comme il y a maintenant, il y a des néo-indiens en Amérique latine, il y a des néo-ruraux, il y a des revendications... C'est bizarre, enfin, il suffit d'aller dans un supermarché dans n'importe quelle région de France pour voir que c'est bizarre. Les produits régionaux, mais pas vraiment régionaux. Je sais pas, la marque Reflet de France, c'est quand même une grande source d'énigmes. Enfin, des gens qui adoptent des plats traditionnels de la région d'où ils viennent pas. Enfin, c'est cette espèce de jeu permanent avec l'identité d'un pays qui a une vraie névrose avec son identité depuis pas mal de temps. Et l'une des façons dont ça s'incarne, c'est dans cette espèce d'identité. Ouais, de quête effrénée d'identité territoriale, entre autres, hein, mais le chauvinisme français, un beau sujet d'étude. L'échelon du département, c'est l'échelon du chauvinisme, en général. Il n'y a pas de chauvinisme trop supérieur.
C'était les temps où on apprenait encore
oui, c'est ça,
tous les départements.
Moi, j'ai pas appris ça, j'ai appris les plaques d'immatriculation, mais puis voilà, c'est la fin du département, c'est un bon objet, c'est un bon fétiche. Et puis derrière, il y a cette France très morcelée, cette France des 30 000 paroisses, cette France du cadastre compliqué, cette France où les cartes sont toujours truquées, parce que derrière la carte des régions, il y a la carte des provinces, derrière la carte des provinces, il y a d'autres trucages démographiques, etc. Et c'est comme un hologramme, quoi. Le jacobinisme prétend être une feuille blanche, et puis en fait, on se rend compte qu'il y a une profondeur intéressante, donc on peut y descendre. C'est ce que j'ai fait j'utilise un peu la matière historique, quasiment la matière de Bretagne, comme on disait des romans de chevalerie, mais la matière historique est géniale en France, enfin, elle est partout, mais bon, il y a un fond, on peut creuser et aller très très loin très rapidement, jusqu'au Celte, jusqu'à avant, jusqu'à des théories marrantes, etc. Il y a une sorte de cadastre historique qui est particulièrement vif et qu'il était amusant de réactiver.
J'avais une dernière question sur... j'avais vu que vous parliez, par rapport à votre usage de la technique dans le style, que c'était aussi une question de responsabilité de l'écrivain, de rendre belles les choses qu'on considère normalement comme laides.
Ouais, bah c'est une question assez prégnante qui est venue au fil de l'écriture. C'est c'est à la fois très modeste et très ambitieux, mais qu'est-ce qu'on fait quand on écrit un livre? On tente de définir une esthétique et du coup, bah, moi c'est amusant et un côté un peu manifeste, comme un manifeste futuriste, de s'écrier que les avions sont beaux. Là, il y a l'idée de s'écrier que les zones périurbaines sont belles, que les autoroutes sont beaux, que les voies ferrées sont belles. Enfin, il y a tout un truc, pas factice, mais un jeu de réaffirmation. De l'existence d'objets intéressants, déjà parce que c'est des objets intéressants. C'est inouï, par exemple, enfin, c'est un détail, mais c'est inouï qu'un demi-siècle après sa construction, la tour Montparnasse fasse encore l'objet de rejet, pas argumenté, mais de rejet mécanique. Enfin, il y a une sorte de... C'est inouï de voir que la critique facile des centres commerciaux suffit parfois pour passer pour quelqu'un d'un peu profond et d'un peu intelligent, alors que il y a une mise en scène de notre société dans les zones commerciales qui est plutôt réussie. Il suffit juste de savoir la lire, mais même pas en écrivain, limite en géographe.
Parce qu'il y a un certain mal avec tout ce qui est artificiel, contrairement à ce qui est naturel.
Et... Oui, c'est ça. Bah déjà, et puis en fait, c'est cette distinction elle-même qui est artificielle. Mais c'est amusant de voir que des grands cubes blancs vendent des chaussures comme ça à l'échelle industrielle. Enfin, c'est profondément notre monde. Et donc, j'essaie de sauver ce type d'objet parce qu'ils sont... Je passe mon temps en fait à rencontrer des objets qui pourraient être les musées de la modernité. Et puis en plus, on est une modernité intéressante, puisqu'on est une modernité un peu en crise, une modernité qui ne croit plus en elle-même. Mais il y a plus de... Enfin, ces objets existent. Et c'est important, je pense, au-delà de définir une esthétique, c'est de réussir à faire créer des objets qui n'existent pas forcément. Le périurbain, enfin, c'est pas moi, mais il y a 10 ans, personne ne savait trop ce que c'était. Hein. La banlieue, tu vois, avant Céline, ça existait à peine, quoi. Céline a quasiment inventé l'objet, et puis le périurbain, quelques autres l'ont inventé, et puis fabriquer comme ça des objets qui peuvent devenir... les paysages sont des choses qui s'abriquent, et on a une vision...
Il faut que l'écrivain fasse pour inventer le paysage.
Ouais, enfin, l'écrivain, le géographe, quelques autres, mais ouais, c'est important. Là, pour le coup, il y a une vraie mission, une vraie responsabilité.
Une mission de l'artiste ou du technicien, parce que
disons, le problème de l'artiste, c'est que spontanément, dans notre monde où la séparation quand même du travail est très bien faite, l'artiste est quasiment là pour critiquer le travail de l'ingénieur. Et on n'imagine plus une solidarité possible. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, fondamentalement, je pense que les ingénieurs n'y connaissent rien en art, et fondamentalement, les artistes n'y connaissent rien en ingénierie, mais tenter de faire redialoguer les deux champs est intéressant, parce que sinon, c'est un dialogue de sourds, c'est débile, quoi. Les artistes ne jurent que par une France éternelle qu'une fabrication complètement fausse, et les artistes deviennent finalement très réactionnaires, qu'ils soient de gauche ou de droite. Les artistes assument une posture réactionnaire, et en contrepartie, les ingénieurs surjouent une sorte de posture progressiste, mais les deux tournent en vide, en fait. Donc c'est intéressant de pouvoir réarticuler les deux.
D'accord, très bien. Merci beaucoup.